Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le jeudi 9 décembre et nous sommes ravis comme chaque matin de vous accompagner jusqu'à 6h30.
Avec le sourire comme toujours et pour vous divertir et surtout vous informer.
Oui justement Julien, à la une ce matin.
La gauche qui s'interroge face au risque de n'avoir aucun candidat au second tour de la présidentielle. Anne Hidalgo propose une primaire, Arnaud Montebourg lui un projet commun. La crise du Covid également à la une et la cinquième vague qui submerge les hôpitaux à 2 semaines de Noël. On va y revenir dans le journal de 5h.
Et puis un milliardaire, un de plus dans l'espace.
Un milliardaire japonais qui est depuis quelques heures à bord de la station spatiale internationale. Séjour de 2 semaines, all inclusive, à 100 millions de dollars, ça fait rêver.
Ouais, alors ce qui fait moins rêver en revanche, ce sont les chiffres de la pollution générée par ce voyage.
Et oui, parce que les fusées, ça pollue même énormément. Et on ne parle pas là des dizaines de milliers de débris qui flottent dans l'espace, non, mais des milliers de tonnes de CO2 que génèrent les lanceurs en s'arrachant du plancher des vaches. Alors pour l'heure, ça reste négligeable, mais avec le développement du tourisme spatial, ça risque de devenir un réel problème à l'heure de la lutte contre le changement climatique. C'est ce que dénonce notre invité à 6h10, le physicien François Graner. Des fusées, il y en aura sûrement plein au pied des sapins à Noël, mais sûrement pas autant que des exemplaires du manga One Piece.
Du phénomène One Piece, Julien, le manga a été créé il y a 20 ans par l'auteur japonais Eiichiro Oda. Un tome est publié chaque trimestre et le chapitre 100 est sorti hier en France, aux éditions Glénat, avec un tirage exceptionnel de 250 000 exemplaires. C'est du jamais vu pour un manga dans notre pays.
One Piece qui peut se vanter d'avoir plusieurs générations de lecteurs.
Et oui, des enfants, des ados et des adultes qui ont lu les premiers tomes il y a 20 ans et qui les transmettent à leur progéniture. Pourquoi un tel engouement autour de One Piece et comment expliquer le succès des mangas aujourd'hui? On posera ces questions à Julien Bouvard, il est enseignant-chercheur en études japonaises à l'université Lyon 3.
Et du Japon, cap sur le Brésil ce matin pour votre partition.
Comparé à Gershwin, il est l'un des plus grands compositeurs de la musique populaire du XXe siècle.
Si você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor.
Le maestro brésilien Antonio Carlos Jobim, ou Tom Jobim, l'un des inventeurs de la bossa nova à la fin des années 50, la partition de cette vague nouvelle à 6h20.
Voilà pour le programme. On commence avec la petite vague de la météo.
Enfin, on est loin de Copacabana là quand même, hein, au niveau de l'ambiance.
Bonjour Anissa Lady.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.
Et la météo est très loin de Copacabana également.
Oui. Bon, c'est très humide, hein, du sud-ouest au nord-est, en passant par l'Auvergne. Là, on a une large bande qui va arroser toutes ces régions aujourd'hui et tout au long de la journée. Les averses seront très nombreuses. Sur le quart nord-est, on a même, en plus de la pluie, de la neige qui vient se mêler. Donc on aura, vous savez, cette pluie assez épaisse, désagréable de cette saison. Au bord de la Méditerranée, on a du grand soleil toute la journée, hein, du Languedoc jusqu'à la Côte d'Azur. C'est vraiment ciel dégagé, grand soleil, aucun nuage. Sur la Corse, c'est un peu plus compliqué. On a un temps instable avec des orages qui éclatent encore ce matin. Cet après-midi, l'ambiance va rester humide sur une grande partie de la France, avec au pied des Pyrénées beaucoup, beaucoup de pluie. Je vous en parlais déjà, mais on attend jusqu'à 150 mm d'eau d'ici samedi sur la ville de Biarritz, par exemple. Sur toute la façade atlantique du Finistère au Pays Basque, il pleut cet après-midi. Puis partout ailleurs, on a une alternance averse, nuages, éclaircies. Alors ça se rafraîchit côté température. On a des petites gelées dans le Cantal ce matin, jusqu'à 9 degrés en Corse. Et puis cet après-midi, 2 dans le Cantal, 4 dans les Ardennes, 8 en moyenne et 10 degrés au bord de l'Atlantique.
Merci beaucoup Anissa, Dadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. 61 000 cas de Covid en 24 heures, du jamais vu depuis plus d'un an. La cinquième vague fait exploser le nombre de contaminations, mais aussi celui des hospitalisations. Plan blanc activé dans 6 régions, comme en Occitanie, où nous rejoindrons notre correspondant. Rebondissement dans la campagne présidentielle. Anne Hidalgo veut une primaire pour qu'il n'y ait plus qu'un seul candidat de la gauche. Proposition qui ne convainc pas tout le monde. Et puis, pour la première fois depuis 15 ans, Lille obtient sa place en 8e de finale de la Ligue des Champions. Des Lillois sans pitié face à Wolfsburg hier soir, résultat 3-1. Retour sur cet exploit à la fin de ce journal.
Europe Matin, Ombline Roche et Julien Pierce.
Et le journal à 5h, c'est Alban Le Prince, qui le présente. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Où s'arrêtera l'explosion du nombre de cas de Covid? Encore plus de 61 000 infections en 24 heures, une première depuis plus d'un an.
Et avec la hausse des contaminations, c'est mécanique, hein, les hospitalisations augmentent également. Pour anticiper les effets de la cinquième vague, le plan blanc est désormais activé dans 6 régions.
Comme en Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Pays de la Loire, PACA ou encore Occitanie, où on vous retrouve. Benjamin Peter, vous êtes notre correspondant sur place. Concrètement, ça veut dire quoi cette activation du plan blanc ?
Eh bien déjà, ça va permettre l'ouverture de nouveaux lits au CHU de Toulouse. Par exemple, on va réactiver les cellules de crise pour faire le point plusieurs fois par semaine sur les besoins. Le plan blanc va également permettre de faire appel à des renforts, étudiants ou retraités, et si besoin, de déprogrammer des interventions. Et pour le chef du pôle anesthésie et réanimation, le professeur Vincent Maville, c'est aussi la possibilité de répartir les patients entre les établissements de la région.
Sur le CHU, on n'est pas encore surchargé. On est en train d'anticiper cette possibilité de monter en charge, mais pour l'instant, on est surtout là en régulation régionale pour que chaque établissement n'ait pas une pression importante à un moment T. Nous, 90% des patients qui sont en réanimation sont des patients non vaccinés. Donc c'est un peu ça qui nous décourage, c'est-à-dire que on est fatigué, donc on va soigner la population, mais ce qui nous décourage un peu, c'est cette surcharge de travail pour quelque chose qui aurait probablement pu être, peut-être pas complètement évité, mais beaucoup, beaucoup diminué.
Et c'est pourquoi il n'envisage pas ici de faire revenir du personnel de congé, comme le permet pourtant le plan blanc, mais davantage de compter sur les heures supplémentaires sur la base du volontariat.
Benjamin Peter, correspondant Europe 1 en Occitanie.
Coup de théâtre dans la campagne présidentielle à 4 mois du scrutin.
Une surprise d'Anne Hidalgo, la candidate du PS, invitée de dernière minute aux 20h de TF1 hier soir, et à la traîne dans les sondages entre 3 et 5% des intentions de vote, la maire de Paris plaide pour une union de la gauche.
La conséquence que j'en tire, c'est qu'il faut organiser une primaire de cette gauche, arbitrée par nos concitoyens. Je sais qu'ils seront très nombreux, très très nombreux, à vouloir y participer, parce qu'ils souhaitent retrouver l'espoir. Et moi, j'ai pris acte de cette situation. Je sais que si nous ne faisons pas ce rassemblement, il n'y aura pas de possibilité pour cette gauche de continuer à exister dans notre pays.
Ça bouge enfin, a réagi Arnaud Montebourg sur le plateau de France Info, même si pour le candidat de la remontada de la France, ce n'est pas forcément la bonne idée. Il faut que les candidats se penchent sur un projet commun.
Moi, ce qui m'importe, je vais vous dire, ce qui m'importe, c'est qu'on ait un projet commun. Et je propose une réunion de travail entre l'ensemble des équipes pour que nous mettions chacun 5 projets que nous ferions. Et puis après, il y aura 3, 4, 5, peut-être pas plus, de points de divergence à trancher. Et là, nous pourrions avoir un projet de gouvernement réaliste, réalisable, concrétisable, et qui donne finalement à la gauche une perspective politique.
Cette primaire ne fait pas l'unanimité, notamment dans les rangs de la France Insoumise et des Verts.
Dont le candidat Yannick Jadot sera l'invité à 8h13 de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1. 3 mois après le début du procès des attentats du 13 novembre, c'était hier la fin d'une phase.
Chapitre de 9 jours durant lesquels les enquêteurs belges ont présenté le parcours des terroristes et des accusés. Témoignages anonymes et par visioconférence. Conséquence, jusqu'à 5 accusés absents chaque jour du box en signe de protestation. Gladys Laffitte, leurs dépositions ont aussi mis en colère les victimes et leurs avocats.
Ah oui, les enquêteurs belges voulaient éviter le Belgique bashing. Eh bien, c'est assez raté puisque leurs prestations à l'audience ont été décevantes. Sur la forme d'abord, certains donnaient l'impression de découvrir l'exposé qu'ils lisaient sur un ton souvent désinvolte et soporifique. Mais surtout sur le fond, beaucoup de « je ne sais pas, il faut voir avec mon collègue », peu de réponses concrètes aux nombreuses questions des avocats de tous bords. Par exemple, sur l'exploitation tardive du téléphone de Brahim Abdeslam, 1 an après le 13 novembre, alors que des messages avec Abdelhamid Abaoud auraient pu être découverts avant les attentats, ou encore sur la réalité du suivi par les services belges de Salah Abdeslam, identifié et interrogé par les enquêteurs en février 2015. Maître Gérard Chemla est avocat de partie civile.
À mon avis, c'est difficile de se confronter aux erreurs. Je pense qu'il y a un souci de clarté. On n'a pas encore mis à jour les choses qui n'ont pas été traitées comme elles auraient dû l'être. En l'état, je n'ai pas l'impression que tout soit mis sur la table.
L'avocat a demandé à ce que le patron de l'organe de contrôle de la police belge soit entendu par la cour. D'ici là, les parties pourront retenter leur chance auprès des enquêteurs belges qui témoigneront à nouveau en février prochain.
Merci Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Salah Abdeslam et 5 co-accusés au procès du 13 novembre seront également jugés en Belgique à partir du 10 octobre 2022, a fait savoir la justice belge hier soir, soupçonnés d'avoir participé aux attentats de Bruxelles en 2016.
On va maintenant à 17 000 km de la métropole, en Nouvelle-Calédonie, où nous sommes à 3 jours du référendum sur l'indépendance.
L'archipel considéré comme une mine d'or vert. L'or vert, c'est le nickel. La Nouvelle-Calédonie possède 1/4 des ressources mondiales, un métal précieux, très recherché et utilisé notamment dans les batteries. C'est là que Tesla, la marque de véhicules électriques, a notamment choisi de se fournir. Le reportage de notre envoyée spéciale à Nouméa, Caroline Baudry.
au bord du lagon des mines à ciel ouvert, des pelles et des camions qui vont aller chercher un métal qui est vert.
Un métal qui attire l'attention d'Elon Musk il y a 2 ans, sourit Mathias Vidal, directeur financier adjoint de l'usine Prony Ressources. Le contrat commercial est annoncé en octobre dernier, 42 000 tonnes de poudre verte achetées par le milliardaire.
C'est évidemment une fierté, parce que le résultat de 2 ans de travail, de négociation, à peu près un quart de nos exports sur une durée de 5 à 7 ans seront destinés à Tesla. Et puis c'est une fierté parce que ça place aussi la Calédonie sur la carte.
L'archipel se distingue, la production est ici encadrée par des normes environnementales, avance le directeur financier. Adjoint, idéal pour fabriquer les batteries des centaines de milliers de véhicules électriques Tesla qui demain sillonneront le monde.
Par véhicule électrique, il faut à peu près 30 à 40 kg de nickel qui permet d'avoir une forte densité dans les batteries, une forte autonomie.
Le métal très recherché se vend aujourd'hui plus de 20 000 dollars la tonne. Nouméa, Caroline Baudry, Europe 1.
En Martinique, un peu plus de 2 semaines après le début de la grève générale, la procureure de la République de Fort-de-France dresse le bilan avec l'ouverture de près de 150 enquêtes liées aux violences et pillages commis en marge du mouvement. Une 50aine de personnes déférées, dont une 12aine placées en détention.
On termine avec le foot et cette prestation brillante hier des Lillois.
Oui, un match exemplaire face à Wolfsburg en dernière journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Résultat 3-1, Lille termine premier de son groupe, Cyril de la Morinerie, et en prime accède pour la première fois depuis 15 ans au 8e de finale.
Oui, rien ne pouvait arrêter les Lillois, ni le froid, ni l'absence de leurs supporters. C'était leur soirée. Le champion de France s'est imposé avec panache à l'image du premier but, un contre éclair en 3 passes du gardien jusqu'au buteur Burak Yılmaz. Pourtant, le champion de France revient de très loin. Après 2 nuls et 1 défaite, le LOSC a enchaîné 3 victoires de suite en Ligue des Champions. Du coup, Lille termine à la surprise générale premier de son groupe, ce que le PSG n'a pas réussi à faire. Une fierté pour l'entraîneur Jocelyn Gourvennec, interrogé par Canal+.
D'avoir la première place, c'est première fois dans l'histoire du LOSC. Les joueurs auront de toute façon marqué l'histoire du LOSC. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de détermination pour faire de belles choses.
Lille, tout comme le PSG, attend désormais le tirage au sort avec impatience, prévu lundi prochain. Parmi les adversaires possibles du LOSC, les 2 clubs de Lisbonne, Benfica et le Sporting, l'Inter Milan, l'Atalanta Bergame ou Villarreal, mais aussi 2 cadors européens, l'Atlético de Madrid et le tenant du titre, Chelsea.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. J'ajoute que la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a tranché après le fiasco du match Lyon-Marseille le 21 novembre. Elle retire 1 point à l'OL. Le match sera rejoué à huis clos au Groupama Stadium.
À une date encore inconnue, c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban.
Il est 5h09 sur Europe 1, c'est les courses de Thierry Léger, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 509 Iron Boy de Busset. Il reste sur 2 excellentes deuxième places le 3 octobre sur l'hippodrome de Cordemais, puis le 12 octobre à Vincennes, n'étant devancé ce jour-là que par un très bon poulain. Je le sais de mieux en mieux le matin à l'entraînement, ce qui devrait largement suffire ici pour s'imposer. Notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la 5e course, le numéro 9, Iron Boy de Busset.
Le numéro 9, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. Et on vous retrouve dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Nous, on revient dans un peu moins d'une minute avec les meilleurs articles à lire ce matin dans la presse.
Voilà, les meilleurs selon nous. Hein. Bon, on va dire ceux qui ont attiré notre attention. C'est la prescription pressing. On va parler des déchets sauvages, des petites pièces de 1 à 2 centimes qui pourraient bientôt disparaître et des siestes de génie. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est 5h11, vous faites bien de vous réveiller si tôt avec nous, ou de veiller si tard, hein. 5h11 ça
c'est
fonctionne aussi.
Oui.
C'est le pressing, nous sommes bien sûr rejoints par Martin Lange.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux comme chaque matin. Macron veut faire de l'Europe un tremplin pour 2022, c'est le titre du Figaro. Alors que le chef de l'État va présenter tout à l'heure, cet après-midi, ses priorités pour la présidence française de l'Union Européenne lors d'une grande conférence de presse. 2022, on en parle aussi à la une d'aujourd'hui en France. Macron en tête, Le Pen et Pécresse au coude à coude, écrit Le Quotidien qui publie un énième sondage. On y apprend que le match pour la deuxième place est très serré. La candidate du RN et celle de LR sont toutes deux à 16% des intentions de vote. Et puis, l'île des champions titre malicieusement l'équipe au lendemain de la qualification du LOSC pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, vous suivez ? Non, pas du tout.
Si, si.
Si, si. Voilà, on a suivi le match aussi.
Ah oui, bien sûr. On vous croit. Omblin, commence avec vous.
Oui, vous faites bien. Ce sont des mégots de cigarettes, des sacs plastiques, des matelas. des lave-linges. On trouve tout et n'importe quoi sur les trottoirs de nos rues, sur les plages, au bord des rivières, sur les montagnes. Les gens jettent dehors leurs déchets par la fenêtre de leur voiture lorsqu'ils roulent sur une autoroute, au pied de leur immeuble ou un petit peu plus loin dans la commune voisine, parce qu'il ne faut pas que ce soit tout près non plus. Aujourd'hui en France, on parle d'un million de tonnes d'objets de détritus abandonnés par an, n'importe où. C'est 100 fois le poids de la Tour Eiffel, pour vous donner un ordre d'idée. Cette estimation vient de l'association Geste Propre, qui s'inquiète de voir ce phénomène s'amplifier. Depuis le début de la pandémie, deux fois plus de déchets sont jetés dans la nature, surtout dans les villes et au bord des routes. L'une des raisons pour l'expliquer, c'est la consommation de repas à emporter. En plus du manque de civisme, bien sûr. Hein, je ne vais pas le préciser à chaque fois, parce qu'à la base, c'est ça le problème. En 2020, sur la voie publique, l'association a constaté une multiplication de restes de restauration rapide, des bouteilles de verre, des canettes laissées là sur la voie publique, comme si forcément quelqu'un allait passer derrière. Un éboueur de la ville de Paris témoigne. Les gens se disent que les services publics de nettoyage sont là pour ramasser derrière eux. Ils trouvent régulièrement des meubles et des déchets de chantier, parce que, aussi, il faut le préciser, certains professionnels, pas tous, hein, évidemment, loin d'être nombreux non plus, mais il y en a, ils veulent se passer de payer la taxe liée à la dépose des gravats à la déchetterie, donc on va les laisser là par terre. Certains particuliers ne prennent même pas la peine de se rendre à la déchetterie, même si pour nombreuses d'entre elles, la dépose d'encombrants est gratuite. Et toujours avec cette volonté de ne pas payer, on retrouve beaucoup plus de sacs poubelles abandonnés sur des aires de repos, près de municipalités qui ont mis en place une redevance facturée aux habitants en fonction de la quantité de déchets qu'ils jettent.
Et oui.
Donc ils mettent dans la commune voisine encore. Bon, on reparle du civisme ou bien ? Bon, quelles seraient les solutions pour lutter contre ce fléau ? Taper dans le porte-monnaie, tiens. Plus d'un Français sur deux sont pour verbaliser les jeteurs. Un quart demande plus de poubelles, ces déchets qui nous font honte dans aujourd'hui en France.
C'est 135 euros, je crois, pour l'amende pour les déchets sauvages, comme on appelle cela. C'est un gros problème, notamment dans la ville où j'habite, sur les encombrants. Tous les jours, on trouve effectivement des matelas, des chaises, des
pneus,
meubles.
Alors qu'il suffit de prendre rendez-vous.
Absolument. Mais je ne suis pas sûr qu'hélas, cette amende de 135 euros soit dissuasive. C'est peut-être le problème aussi.
En tout cas, le problème est exposé ce matin dans Aujourd'hui en France, et c'est bien de le rappeler, 1 million de tonnes, c'est ça ?
Oui, 1 million de tonnes
chaque année. C'est colossal. Merci Ombline. Ouais. Martin, à vous.
Oui, avec une question ce matin, les pièces de 1 et 2 centimes vont-elles disparaître ? La Commission européenne y réfléchit en tout cas très sérieusement. D'ailleurs, les salariés de la Monnaie de Paris qui frappent ces pièces à Pessac, près de Bordeaux, étaient en grève hier. Alors, ces pièces de 1 ou 2 centimes, on en a tous au fond de nos poches, on ne sait pas trop quand s'en servir. Inutile, encombrante, c'est ce qui ressort d'ailleurs d'une consultation citoyenne qui date de mai dernier. Plus de 17 000 Européens avaient répondu et 72% d'entre eux étaient favorables à un abandon. La disparition de ces pièces rouges, c'est un serpent de mer, mais le Covid a accéléré la réflexion, car on utilise de moins en moins de liquide au détriment notamment du paiement sans contact. Certains pays comme la Belgique ou l'Irlande ont d'ailleurs déjà sauté le pas, car ce qu'on ignore souvent, c'est que frapper cette petite monnaie coûte cher, en tout cas plus cher que la valeur nominale de la pièce. Par exemple, une pièce de 1 centime coûte 1,2 centime à produire. Pas très intéressant, surtout si elle ne sert qu'une fois et finit au fond d'une boîte ou d'une machine à laver.
Bon bref, Martin, on l'a bien compris, toutes les raisons sont bonnes pour entériner leur disparition.
Oui, enfin, presque. À Pessac, il y a quand même des salariés inquiets pour leur emploi. Ils ont déjà vu leur effectif divisé par 3 en 20 ans. Deux pièces en moins à fabriquer, ça signifiera nécessairement encore moins de travail. Autre argument contre l'inflation, l'inflation, sujet hautement sensible actuellement. Beaucoup de Français craignent que la suppression des pièces de 1 et 2 centimes oblige les commerçants à arrondir leurs prix et pas à la baisse. Disons par exemple qu'une baguette à 93 centimes passerait nécessairement à 1 euro, puisqu'on ne pourrait plus payer ces 93 centimes. Alors face à cette crainte, nos voisins belges ont dicté une règle. Si le montant se termine par 1, 2, 6 ou 7 centimes, le commerçant arrondit à la baisse. Si c'est 3, 4, 8 ou 9, c'est à la hausse. Une idée originale, mais qui ne devrait pas arriver tout de suite sur nos étals. Alors qu'elle devait prendre une décision avant la fin de l'année concernant ces pièces rouges, la Commission européenne pourrait jouer la montre. Les pièces de 1 et 2 centimes d'euros vont-elles bientôt disparaître ? C'est à lire sur le site de West France.
Merci beaucoup Martin. Une question à présent les amis, êtes-vous des adeptes de la sieste ?
Alors,
nécessairement,
mais au-delà de l'horaire un petit peu particulier.
Avant, pas du tout.
Si, l'été, quelle merveille.
C'est parce que vous êtes sudiste.
La sieste, en tout cas, a longtemps été moquée, associée à la paresse, et pourtant, c'est le remède naturel le plus efficace pour supporter le rythme effréné imposé par nos vies modernes. C'est même validé par les neurosciences. La science, justement, doit beaucoup aux siestes. C'est en s'assoupissant au bain public qu'Archimède a découvert la fameuse poussée qui porte son nom. C'est en faisant un petit six sommes sous un arbre que Newton a décelé la loi de la gravitation universelle à partir de la chute d'une pomme. Qu'est-ce qui vous fait sourire?
Bah, là, Gottlieb le montre très bien dans ses BD, rubrique à braque, la pomme qui tombe.
C'est vrai, effectivement. À cela, ajoutez Léonard de Vinci, Einstein ou encore Benjamin Franklin, eux aussi raffolaient des siestes. D'où cette interrogation. Est-ce que les génies aiment particulièrement les siestes? Est-ce que ce sont les siestes qui permettent de devenir un génie? Ou bien un petit peu des deux? C'est ce qu'a voulu savoir une équipe de chercheurs français fortement inspirée par cette petite habitude qu'avait Thomas Edison. Vous savez, c'est l'inventeur notamment des ampoules. Avant de débuter une sieste, l'Américain prenait dans chaque main un globe en métal qui, quand il s'endormait, le réveillait instantanément en tombant. Or, juste après ces brusques réveils, disait-il, Thomas Edison fourmillait d'idées et notait tout sur un calepin. Un moment Eureka, c'est ainsi que l'ont baptisé les scientifiques tricolores qui ont réussi à en percer les secrets, comme le raconte un article du Parisien.fr. Et le secret, ce n'est pas tant la sieste, mais les quelques secondes qui la précèdent, cette frontière ténue que vous connaissez tous entre l'éveil et le sommeil qui nous permettrait de résoudre des problèmes complexes. C'est à l'Institut du cerveau à Paris que l'on doit cette étude. Les chercheurs ont demandé à une centaine d'individus de plancher sur un problème logique comportant un moyen caché qui en facilite grandement la résolution. Seules les personnes n'ayant pas trouvé la solution ont été autorisées à poursuivre l'expérience. Elles ont ensuite été placées pendant 20 minutes dans les mêmes conditions que Thomas Edison, c'est-à-dire allongées sur un siège incliné, dans le noir, avec une bouteille dans une main devant les réveiller si elles tombaient. Trois groupes différents ont pu être déterminés. Un premier composé des personnes qui ne se sont pas endormies, un deuxième avec celles qui ont failli s'endormir complètement, et un troisième où là les individus sont tombés dans les bras de Morphée. Au bout de 20 minutes donc, le problème leur a à nouveau été soumis. Résultat, 83% des personnes du deuxième groupe, celles qui ont été dans un demi-sommeil, ont trouvé la solution au problème. 83%. C'est un niveau très élevé comparé notamment au premier groupe, 31%, et plus encore par rapport au dernier, celui des ronfleurs, seulement 14% de taux d'élucidation. Conclusion, le moment Eureka existe bel et bien et serait dû à l'activité qu'a notre cerveau pendant la phase d'endormissement. Il rejoue de manière accélérée nos souvenirs et repasse donc les problèmes sur lesquels on vient de buter jusqu'à parfois les résoudre, trouver la solution sans qu'on en ait conscience, sauf à se réveiller brusquement. Ce n'est donc pas la sieste qui permet de devenir un génie, mais la micro-micro-micro-sieste.
On y pensera donc tout à l'heure quand on ira faire notre sieste. On essaiera de garder... En même temps, il faut garder un verre à la main.
C'est pas facile.
Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine le pressing. Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h20, les principaux titres de ce jeudi, le journal permanent, Alban Le Prince.
Du jamais vu depuis le 2 novembre 2020, plus de 61 000 cas de Covid hier et de nouvelles informations sur le variant Omicron. Selon l'OMS, il semble provoquer des symptômes moins sévères que le Delta, mais présenterait un taux de réinfection plus élevé. Coup de théâtre à gauche dans la course à l'Elysée. Anne Hidalgo, la candidate PS, veut une primaire de la gauche, proposition qui ne fait pas l'unanimité. Le ministre des PME remplacé par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au tourisme. Alain Griset a démissionné hier après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour avoir caché une partie de son patrimoine. Il a fait appel.
Europe 1. BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente Initiative en France.
Bonjour Harold Guillemin.
Bonjour Julien.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le fondateur de FinX, une start-up qui développe des moteurs de bateaux pas comme les autres, des moteurs électriques et bio-inspirés, inspirés de la nature. En clair, ils n'ont pas d'hélice. Comment ça marche? Expliquez-nous.
Eh bien, nous faisons des moteurs de bateaux à nageoires. En fait, on remplace l'hélice par une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson et qui permet tout un tas d'avantages. C'est une technologie électrique, donc qui pollue finalement très peu. Il n'y a aucun gaz à effet de serre qui est mis en fonctionnement. Et en même temps, c'est une technologie hyper safe. On ne peut pas se blesser en fait avec cette membrane, un peu comme finalement une nageoire de poisson, quoi.
Alors pour que nos auditeurs visualisent bien, la partie immergée du moteur ressemble à un cylindre relativement large. Et au bout, il y a comme un joint de plomberie, une membrane. Et c'est ça qui remplace l'hélice, c'est bien ça?
En fait, la membrane est en élastomère, donc elle est souple. C'est un matériau souple qui ondule comme une nageoire et qui permet la propulsion sans aucune pièce en rotation. Donc finalement, on a uniquement cette ondulation de la membrane qui crée la propulsion avec une efficacité énergétique à toute épreuve.
Ça ondule très rapidement. Est-ce que ça ressemble aux vibrations que l'on a sur les baffles d'une enceinte, par exemple ?
Ça peut être comparé effectivement à cela, en fait, hein, comme un haut-parleur, vous avez une membrane qui se déforme. Bien nous, notre membrane ondule et crée une dépression, en fait, et aspire l'eau et la refoule à l'arrière.
Et vous le disiez à l'instant, cette technologie est aussi efficace en termes de puissance et d'efficience que les bonnes vieilles hélices ?
Voilà, en fait, on ne mixe pas le fluide comme le fait une hélice. On le propulse en ligne droite sur cette membrane, donc on gagne en efficacité à ce niveau-là. Et en plus, on a beaucoup moins de pièces mécaniques à risque. On n'a pas de vilebrequin, pas de réducteur. La membrane est actionnée, je dirais, en ligne directe par les aimants, l'électro-aimant qui l'actionne. Donc on a cette efficacité énergétique qui est hyper intéressante pour les moteurs de bateau. Ça veut dire plus d'autonomie en mer. Mais ça veut également dire, avec cette nageoire, une sécurité maximale et une robustesse à toute épreuve face aux algues, aux bouts et aux débris. Parce qu'on ne peut pas s'en mêler, en fait, avec cette membrane, contrairement aux hélices, justement, on ne peut pas s'en mêler dans des algues et des fils de pêche, par exemple.
Et ça, j'imagine, c'est une caractéristique très appréciée des plaisanciers. Est-ce que c'est aussi plus silencieux qu'un moteur thermique à hélice ?
Bien sûr, on est sur une motorisation électrique, donc notre moteur est silencieux et n'émet pas de gaz à effet de serre. Ouais.
Est-ce que cette technologie est applicable théoriquement sur n'importe quel type de bateau, du petit navire de plaisance au super tanker ?
Alors, très bonne question. En fait, on a fait des calculs pour justement trouver d'éventuelles limites technologiques de cette membrane. Bah, il s'avère, un peu comme l'hélice finalement, qu'on peut atteindre des très grandes puissances. On pourra propulser à la fois des petits jouets nautiques comme des super tankers, parce que justement, on va jouer sur une quarantaine de paramètres liés à cette membrane, que ça soit sa raideur, la force, l'amplitude, la fréquence du mouvement. Et donc, en jouant sur tous ces paramètres, on peut atteindre des puissances plus importantes. Et c'est tout l'objet, justement, de la levée de fonds que l'on réalise actuellement pour industrialiser notre premier produit, un moteur de 5 chevaux qu'on a développé cette année, mais également développer un 150 chevaux électrique à hydrogène qui permettra de propulser des embarcations beaucoup plus importantes. On rentre dans le sport nautique, etc.
Et c'est un moteur, je crois, que l'on verra à l'œuvre lors des Jeux Olympiques à Paris en 2024, c'est bien ça ?
Tout à fait. En fait, on est lauréat de l'appel à innovation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et donc, on promouvera la mobilité verte, même sur la Seine, lors des JO. On aura 5 embarcations qui navigueront sur la Seine pour du transport de passagers et de VIP lors des JO de Paris 2024.
Vous avez dans cette aventure un parrain prestigieux, le navigateur Loïc Perron. Qu'est-ce qu'il vous apporte ?
Alors, Loïc, eh bien, écoutez, il était là dès le début du projet. Il a accepté de monter sur le bateau Phoenix. En fait, Loïc, outre, je dirais, son expertise maritime, Loïc est un technicien hors pair. Il nous a aidés dans la conception de ce moteur pour justement avoir un moteur marin, facile à utiliser et puis le plus ergonomique possible.
Je crois qu'il vous a aidé à résoudre un petit problème de marche arrière, c'est ça ?
Eh bien, tout à fait. En fait, un peu comme les poissons, finalement, la marche arrière n'est pas native sur cette technologie. Et Loïc et nous avons trouvé finalement une solution à ça, une solution très simple et très séduisante mécaniquement et qui est implémentée sur le Fin 5, notre premier moteur de 5 chevaux.
Qui est d'ores et déjà disponible à la commande. Merci beaucoup, Harold Guillemin, de nous avoir présenté Phoenix, la start-up qui a inventé le moteur de bateau sans hélice, inspiré de la nature. On vous souhaite bon vent, même si, en l'occurrence, vous n'en avez pas besoin.
Merci beaucoup. Au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h28, on jette Omblin, si vous le voulez bien, un œil sur le programme de la prochaine demi-heure.
Mais avec plaisir, comme chaque jeudi, on s'installe en plus à la table d'Olivier Pouls, la table du petit-déj pour déguster une spécialité franc-comtoise, la cancoyotte, cette spécialité fromagère qui sur du pain, et Anissa va pas me faire confirmer, va parfaitement bien accompagner notre
sur
café noir.
Sur du pain, sur des pâtes partout.
Ouais, oui, chaude ou froide.
Cancoyotte, café noir, bref, on en reparlera.
Vous essaierez.
Et juste avant, on parlera de BD japonaise et du phénomène One Piece.
Oui, si vous ne connaissez pas, peut-être que vous allez avoir envie de vous y mettre à Noël. Le tome 100 de One Piece est sorti hier. Ce manga sur les pirates qui existe depuis 20 ans est devenu la série la plus vendue dans le monde. Pourquoi un tel succès ? Et allons plus loin. Aujourd'hui, le marché des mangas est en pleine explosion. On voit des rayons s'agrandir dans les librairies. Les mangathèques fleurissent partout. Plus d'une BD sur deux, achetée en France est originaire du Japon. On sera dans un quart d'heure avec un enseignant-chercheur en études japonaises.
Mais avant, la météo avec vous, Anissa, et prudence dans le sud-ouest.
Oui, on a des pluies fortes sur les Pyrénées. On vous parle de cet épisode assez important depuis le début de la semaine. Ça y est, on est vraiment en plein dedans. Alors, au fil des heures, les pluies vont se décaler vers les Landes et la Gironde. La neige, elle, s'élève à 1500 mètres. On a eu beaucoup de neige sur les Pyrénées. Le temps va rester agité et mauvais toute la journée dans le sud-ouest. D'ailleurs, sur toute la durée de cet épisode neigeux, pluvieux, on attend jusqu'à 150 mm d'eau à Biarritz et jusqu'à 1,40 m de neige fraîche à 1500 mètres d'altitude. Je connais les skieurs qui vont être contents. Alors de manière générale, hein, du sud-ouest au nord-est, on a quand même un ciel très couvert aujourd'hui. Dans les Alpes, on a de nouveau de la neige à basse altitude des 300 mètres. Là aussi, les skieurs sont ravis. Cet après-midi, on a une petite accalmie sur l'ensemble du pays. Entre les Hauts-de-France et la Méditerranée, là sur une bande qui va couper la France de manière assez large, on a quand même un temps assez calme, sec, avec une alternance d'éclaircies et de nuages. C'est à l'ouest une nouvelle perturbation qui arrive. On a de la pluie de la Bretagne aux Pyrénées tout l'après-midi. Moins 4 à Charleville, moins 2 à Metz, 0 à Saint-Etienne, 3 à Paris et 8 à Cherbourg ce matin.
Merci beaucoup Anissa Dadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
À la une de l'actualité de ce jeudi, le grand oral d'Emmanuel Macron. À quelques semaines de prendre la présidence tournante de l'Europe, le chef de l'État va présenter ses ambitions pour l'Union. La pression s'accentue sur les hôpitaux. Le plan blanc déclenché dans plusieurs régions, dont l'Île-de-France et les Pays de la Loire. À La Roche-sur-Yon, les services de réanimation sont débordés. Et puis la SNCF fait le plein de voyageurs. En prévision des fêtes de fin d'année, les réservations ont bondi de 50%. Le succès de la nouvelle carte de fidélité n'y est pas étranger.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal de 5h30, c'est avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Faire de l'Europe le tremplin d'une ambition présidentielle. Emmanuel Macron s'offre un deuxième grand oral face à la presse. Cette fois, ce n'est pas de la France post-gilet jaune dont il va s'agir, mais de l'Union européenne. Le chef de l'État qui s'apprête à en prendre la présidence tournante répondra aux questions d'une centaine de journalistes. L'occasion de dévoiler les thématiques qu'il compte défendre, non sans quelques arrière-pensées électorales, Jacques Serret.
Oui, cette présidence, Emmanuel Macron compte bien en faire un argument mieux, un marqueur de sa politique, un outil de clivage face à ses adversaires eurosceptiques. Lui qui se définit comme étant ni de gauche ni de droite, se revendique profondément européen. Il a là l'occasion d'affirmer son ADN et dans la bataille de 2022, le locataire de l'Élysée compte bien profiter au maximum de l'opportunité que lui offre le calendrier de Bruxelles. La présidence française du Conseil peut servir sa communication pour jouer sur l'image d'un chef de l'État au-dessus de la mêlée par rapport à ses adversaires. Le choix de la date de cette conférence de presse ne doit d'ailleurs rien au hasard. Les Républicains viennent de mettre sur orbite Valérie Pécresse et Éric Zemmour vient tout juste de se déclarer candidat. Candidat Emmanuel Macron, lui, ne l'est pas encore officiellement, mais c'est tout comme, car avec cette conférence, son intention est claire, saturer l'espace médiatique.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Faut-il y voir un coup de poker? En tout cas, Anne Hidalgo propose d'organiser une primaire de la gauche.
Mais c'est ce qu'elle a annoncé hier sur TF1. La maire de Paris et candidate à la présidentielle défend l'idée d'une primaire afin de dégager une candidature commune. Proposition appuyée par Arnaud Montebourg, en grande difficulté lui aussi dans les sondages d'opinion. Proposition aussitôt rejetée par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste de Fabien Roussel.
Les Verts s'opposent également à cette proposition. La primaire a déjà eu lieu et c'est Yannick Jadot, dit le secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot qui sera justement l'invité d'Europe 1 ce matin et de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h13. La crise sanitaire, c'est ce que l'on redoutait et ce que l'on redoutait est en train de se produire. La cinquième vague épidémique n'est pas loin de submerger les hôpitaux.
Le plan blanc est déclenché un peu partout en France, notamment en Île-de-France et dans les Pays de Loire. Plus de 61 000 nouveaux cas enregistrés hier. Un record depuis novembre l'année dernière. Cela commence à se voir dans les unités de soins critiques et les services de réanimation où le manque de personnel aggrave une situation déjà tendue. Reportage à l'hôpital de La Roche-sur-Yon, Sandrine Prioul.
Ici aussi, ça y est, le plan blanc réactivé. Il faut maintenant augmenter le nombre de lits de réanimation.
On va voir au jour le jour comment ça se passe. On sait bien qu'on est dans une période d'incertitude sur notre capacité en termes de service public à assumer ça.
Soit parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou qu'ils n'ont pas eu le temps de valider la dose de rappel, les malades arrivent ici dans le service du docteur Jean-Claude Lachérade.
L'effet d'amortissement de la vaccination qui nous a permis de tenir jusque-là. Mais là, l'incidence est tellement élevée qu'on commence à avoir des soucis sur toute la région des Pays de la Loire. Pour pour accueillir l'ensemble des besoins de soins critiques.
Ce patron de la Réa a beau ajuster la durée des séjours en réanimation pour accueillir plus de patients, son inquiétude, vague après vague, c'est que son équipe vienne à manquer de soignants. De quoi inquiéter aussi cet infirmier, Dany, 17 ans de service ici.
Si ça déborde de trop, ça va être compliqué. Le matériel, tout ça, suite aux précédentes vagues, on en a. C'est protocolisé. Après, il faudra prendre d'autres personnels de service extérieur, les aider à se former. Ça va être le nerf de la suite.
À cela s'ajoute un taux d'absentéisme inédit des soignants dont les enfants privés d'école restent à la maison et qu'il faut bien garder. La Roche-sur-Yon, Sandrine Prioul, Europe 1.
Les autorités insistent plus que jamais sur la nécessité de se faire complètement vacciner. Plus de 11 millions de personnes ont déjà reçu leur troisième dose. Un chiffre arrêté au 7 décembre. Il en faudra peut-être une quatrième. C'est en tout cas la réflexion du président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy. Il l'a dit au cours de son audition hier au Sénat.
Une bonne nouvelle quand même dans cette lutte contre la pandémie de Covid. Elle concerne le variant Omicron qui pourrait ne pas être si dangereux que cela.
Ce sont en tout cas les premières conclusions d'études menées en Afrique du Sud, là où les premières souches auraient été identifiées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, Omicron est plus contagieux, mais ses symptômes sont moins graves que le variant Delta. La prudence reste encore de mise. L'OMS indique que les analyses sont toujours en cours.
Le Covid, en tout cas, n'empêche pas les Français de penser aux fêtes de fin d'année. La SNCF affiche pratiquement complet sur certaines destinations.
On peut même parler de record. Les réservations ont fait un bond de 50% par rapport à l'année dernière. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, en parlait hier sur notre antenne. Chiffre exceptionnel et la nouvelle carte fidélité de la SNCF y est peut-être pour quelque chose. Aurélien Fleureau.
Plus de 3 200 000 voyageurs à deux semaines des vacances de Noël. C'est mieux qu'en 2018, dernière année où la comparaison a du sens, puisque 2019 avait été marqué par les grèves contre la réforme des retraites. Et en 2020, nous étions évidemment en pleine période de couvre-feu et de restrictions sanitaires. Cette année, il n'y aura pas particulièrement un jour de pic d'affluence dans les gares. Ce sera très étalé pendant les deux semaines, avec des trains déjà quasi complets sur les destinations traditionnellement les plus recherchées, vers la Bretagne, le Sud-Est ou encore la montagne. Un engouement pour le train qui peut en partie s'expliquer par le succès de la nouvelle carte de fidélité de la SNCF, la carte Avantage. Alors malgré les critiques de certains clients sur les restrictions pour accéder aux petits prix et à certaines réductions, cette offre a déjà attiré 2 millions de personnes. Le nombre de cartes vendues a doublé depuis le lancement en juin dernier, en passant de 4 à 8 000 par jour. Et parmi ces acheteurs, les trois quarts sont de nouveaux abonnés qui n'avaient pas de carte jusque-là.
Aurélien Fleureau.
Un concert sur des sites historiques, c'est le principe du Monumental Tour. Il est passé à Mulhouse au milieu des voitures anciennes et Europe 1 vous propose de le revivre.
Oui, il y a eu l'abbaye du Mont-Saint-Michel, le château de Vincennes ou encore le phare des baleines de l'île de Ré. Et effectivement, le Monumental Tour a fait étape à la cité de l'automobile de Mulhouse le mois dernier. Concert que vous pouvez revivre en ligne comme si vous y étiez. Reportage Mélina Fachin.
Les superbes voitures de collection, des pièces uniques au monde, sont éclairées en rythme sur la musique live d'une dizaine de jeunes DJ. Voilà le spectacle auquel ont eu la chance d'assister 400 Mulhousiens tirés au sort. Une façon très originale de découvrir ou redécouvrir ce musée d'exception. Michael Canitro, fondateur du Monumental Tour.
Une des volontés premières du projet, c'est de continuer à démocratiser cette musique, donc de la sortir finalement de son réseau habituel, les clubs, les festivals, et de la situer dans des lieux d'exception comme ce soir. Et puis inversement, les jeunes qui consomment cette musique entre guillemets en club ou en festival, et ben là peuvent être amenés à la découvrir autrement. C'est vraiment de faire dialoguer finalement la création la plus contemporaine avec ce qu'on a de plus beau en termes d'histoire.
Et la recette semble payante. Raphaël et Célia apprécient ce mélange des genres.
C'est un beau contraste avec les voitures d'époque et puis les musiques actuelles, c'est sympa.
Et ça donne un autre regard sur le véhicule, je trouve.
Un temps à l'arrêt, sans public à cause du Covid, le Monumental Tour espère reprendre sa tournée dès 2022 à travers toute la France. Mulhouse, Mélina Fachin, Europe 1.
Vous pourrez suivre ce concert à la Cité de l'Automobile de Mulhouse sur la page Facebook du Monumental Tour. Un mot de football, Lille qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après sa victoire 3-1 sur la pelouse de Wolfsburg. Les Lillois terminent premier de leur groupe. Enfin, Lyon perd un point et devra rejouer son match contre Marseille. Sanction prononcée par la commission de la Ligue après les incidents qui avaient émaillé la rencontre OL du 21 novembre.
C'était le journal complet de Christophe Lamarre. Merci beaucoup Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec vous Thierry Léger. Rebonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est à 20 Scène que va se courir ce quintet, une course au trot attelé d'un très bon niveau. Et parmi les 15 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection Wild Love, le numéro 3, dont la dernière course à Vincennes face à l'élite du moment est bien meilleure que l'indique son classement. Ici, face à une opposition moins relevée et sur un tracé qu'elle apprécie, elle ne devrait avoir aucune difficulté à renouer avec la victoire. On lui opposera les numéros 2 Elite Beaufour, toujours à l'arrivée et une nouvelle fois idéalement placé. 1. Fedo Seven, souvent vu à son avantage lui aussi sur ce parcours de vitesse. Et 5. Fairywood, qui jugé sur ses performances de l'hiver dernier, possède à l'évidence une première chance. Enfin les numéros 13, Victor Ferme, 6. Kalina, 9. Mr. Flag et 8. Amon USM sont autant de possibilités pour s'immiscer à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 3, 2, As, 5, 13, 6, 9 et 8.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur Europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain.
Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1.
Le jour où les grands faits historiques racontés à travers nos archives.
Et les récits de Pauline Jacquot. Bonjour Pauline.
Bonjour Ambline, bonjour Julien.
Les jeunes pourront-ils voter à l'âge de 16 ans? C'est en tout cas l'objectif d'une proposition de loi socialiste examinée aujourd'hui au Sénat. Proposition qui fait partie du programme de plusieurs candidats de la gauche à la présidentielle, Anne Hidalgo, Yannick Jadot ou encore Jean-Luc Mélenchon. La droite, elle, s'y oppose fermement. Un débat qui s'est également joué, Pauline, il y a près de 50 ans. L'âge de la majorité était alors de 21 ans.
Au début des années 70, la France sait le rôle que peut jouer la jeunesse, son impact, la force de ses aspirations sur le cours de l'histoire. Mais 68 a montré que les jeunes savaient s'engager. Mais comment les plus de 18 ans qui ont massivement participé à cette révolution peuvent participer à la vie politique? De plus en plus de voix se font entendre pour baisser l'âge de la majorité civile. Elle est fixée à 21 ans pour tous depuis 1907. La France est en retard et les jeunes le font savoir.
Je pense que le droit de vote à 18 ans, ça paraît tout à fait nécessaire. En Europe, il y a tous les pays d'Europe, sauf la Grèce et l'Espagne, qui n'ont pas le droit de vote à 18 ans.
Le droit de vote à 18 ans apparaît dans un programme politique français en 1974. Valéry Giscard d'Estaing en fait une promesse de campagne.
Après la voie du sérieux, il faut que la France s'engage dans la voie de la jeunesse. Et il faut que ce peuple et cette collectivité assurent la relève des générations.
Malgré tout, Pauline, le débat public s'agite autour de cette question. Les jeunes sont-ils assez mûrs pour pouvoir voter ?
Alors Europe 1 décide d'ouvrir le débat. En 1973, nous sommes juste après les manifestations d'étudiants contre la loi Debré, contestation qui touche toute la France. Qui sont ces jeunes ? Peuvent-ils voter alors qu'ils défient le système ? Des professeurs, des experts sont invités par l'animateur Jean-Loup Lafont. Et voilà ce qu'on pouvait entendre à l'époque.
Je crois que le slogan « élection trahison » ou « élection piège à con » masque une réalité profonde, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les facultés, dans les lycées, on ne cesse de voter. Il y a sans cesse des assemblées générales, ouais. Est-ce qu'on débraye, est-ce qu'on fait grève, est-ce qu'on fait pas grève. C'est donc le système représentatif qui est mis en question, c'est pas la démocratie, si on entend par la démocratie le fait de voter.
Les jeunes sont écartés du système politique, dit-on, alors que selon l'enquête d'Europe 1 en 73, ils sont 6 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans à réclamer le droit de vote à 18 ans.
Une autre question à 256-90-00, allô ?
Est-ce que les adolescents ne sont pas un certain témoignage des adultes qui eux-mêmes n'osent pas exprimer leurs propres opinions du fait de leur situation établie ?
Je pense que c'est en partie vrai, c'est très astucieux ce que vous dites là.
Pouvoir voter à 18 ans fait en revanche un peu peur à certains jeunes qui ne se sentent pas d'assumer de nouvelles responsabilités ou qui se désintéressent totalement des élections.
Finalement, Pauline, Valéry Giscard d'Estaing est élue en 1974 et la loi est promulguée le 5 juillet.
Une date qui sera toujours mise en avant dans le bilan du président. À partir de ce moment-là, 2 400 000 jeunes vont désormais pouvoir voter. Ces jeunes adultes, toujours difficiles à classer dans les sondages, que les candidats tentent systématiquement de mobiliser à l'élection présidentielle.
Merci beaucoup Pauline Jacquot. C'était le jour où... Il est 5h42, vous restez avec nous dans un instant. L'engouement pour les mangas et le phénomène One Piece.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon début de matinée à tous sur Europe 1. Il est 5h44 et c'est l'événement de cette fin d'année dans le monde de la BD japonaise. La publication hier du tome 100 du manga One Piece avec un tirage exceptionnel de 250 000 exemplaires. À titre de comparaison, c'est le tirage d'un prix Goncourt selon la maison d'édition Glénat. Alors comment expliquer un tel succès? Nous sommes avec Julien Bouvard, enseignant-chercheur en études japonaises à l'université Lyon 3.
Bonjour Julien Bouvard.
Bonjour.
Ça fait 20 ans qu'on lit One Piece de l'auteur japonais Eiichiro Oda, un tome publié chaque trimestre. One Piece, c'est l'histoire d'un jeune pirate à la recherche d'un trésor. Cela fait donc 20 ans que sa communauté de fans existe. Est-ce que c'est l'une des raisons qui explique son succès si important ?
Absolument, cette communauté de fans qui existe depuis maintenant plus de 20 ans, en fait, elle a suivi la publication d'abord des tomes publiés dans une revue qui s'appelle Shonen Jump au Japon. Alors nous, on ne connaît pas cette revue, mais on connaît néanmoins les tomes reliés qui ont commencé à paraître à partir de la fin des années 90. Et en plus de ce manga original, on a eu aussi la chance de connaître les adaptations en dessin animé qui sont passées sur différentes chaînes de télé en France. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose aussi, c'est que ce manga, il est publié en fait toutes les semaines au Japon et que chez nous, en fait, pour avoir accès à cela pendant très longtemps, les fans, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient sur Internet pour lire ce qu'on appelle les scantrads, hein, c'est-à-dire des versions scannées de cette revue, puis traduites en anglais, parfois même en français. Et bien sûr, toutes les semaines, il y avait une sorte d'engouement pour savoir qu'est-ce qui allait se passer dans la suite, etc. Alors aujourd'hui, il y a une application officielle qui s'appelle Manga Plus qui permet de lire officiellement donc les derniers chapitres de One Piece en version française. Et avec les réseaux sociaux, en fait, on se rend bien compte qu'il y a un vrai intérêt des jeunes lecteurs sur cette série.
Les chiffres donnent le tournis, hein, 480 millions d'exemplaires écoulés depuis sa création. Là, on parle des tomes, des publications physiques. One Piece est le manga le plus vendu sur la planète. C'est presque deux fois plus que Dragon Ball, qu'on connaît bien depuis les années 80. Et justement, la France entre dans l'ère du manga au début des années 80, avec Goldorak notamment. C'est d'abord plutôt le manga animé qui a fonctionné chez nous.
Absolument, et l'expérience française du manga, c'est d'abord une première approche par rapport aux dessins animés, donc aux adaptations en dessin animé de ces mangas. Donc pendant très longtemps, en fait, on ne se doutait même pas qu'il existait des bandes dessinées originales qui existaient au Japon. C'est arrivé en fait beaucoup plus tard, hein, au début des années 90, où les premiers tomes en version française de Dragon Ball notamment et de toutes ces séries qui ont été diffusées depuis les années 80 ont commencé à apparaître en version officielle chez nous. Donc finalement, quand on y réfléchit, c'est une histoire déjà un petit peu ancienne. Hein. La publication de manga en version française, ça a presque une bonne trentaine d'années aujourd'hui.
Dans l'écriture japonaise, il existe différentes manières d'exprimer les émotions, le rire par exemple. On parlait de traduction justement en français, il y a beaucoup de A, de O. On perd beaucoup lorsque le manga est traduit ?
On perd un petit peu puisque l'une des particularités de la bande dessinée japonaise, c'est la profusion des onomatopées qui parfois expriment des sons, parfois aussi des émotions, voire des atmosphères. Et effectivement, quand il faut traduire cela en français, alors on a bien sûr tout un registre d'onomatopées existantes grâce à la bande dessinée franco-belge. Néanmoins, ça pose quelques soucis et on est parfois obligé d'ajouter des verbes, d'ajouter des expressions qui ne sont pas tout à fait cohérentes vis-à-vis de la version originale, mais qui permettent de rendre en tout cas le sens global de l'idée derrière de ce petit mot, cette petite onomatopée.
Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en études japonaises. Vous enseignez la traduction du manga ? C'est difficile ? L'exercice difficile ?
Absolument, oui. J'enseigne aussi la traduction de manga donc à des étudiants de master cette année. C'est un travail qui est bizarrement beaucoup plus difficile que ce qu'on pourrait penser. Ce sont en fait mes étudiants qui me le disent. Ils préféraient peut-être parfois avoir un article de journal sur le confinement ou quelque chose comme ça, peut-être plus facile à traduire que justement cette difficulté des onomatopées. Il y a aussi une difficulté de savoir qui parle, à quel moment. Parfois les bulles sont assez vaguement dessinées, on ne sait pas exactement quel est l'interlocuteur, etc. Donc qui est le locuteur, ce n'est pas forcément marqué non plus dans la langue japonaise. Tout cela demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'attention aussi sur les petits détails des images, des récits, de manière à traduire ça de manière cohérente. Oui.
En deux mots, parce que je pense que le sujet est vaste, mais qu'est-ce qui plaît, voire qui fascine à ce point dans les mangas, et en France notamment, les Français, pourquoi aiment-ils tant les mangas ?
Je pense que tout d'abord, en France, on est un public de bande dessinée. On aime l'art séquentiel, on aime l'alliance entre les images et le texte, on aime les récits dessinés d'une manière générale. Donc, ce n'est pas forcément si étonnant que ça qu'on soit sensible à d'autres formes de bande dessinée. Le marché, enfin, l'industrie de la bande dessinée dans sa globalité en France est aujourd'hui à peu près à 50% maintenant sur le manga, puisqu'environ une bande dessinée sur deux, c'est un manga. Il ne faut pas non plus oublier l'importance du comics américain. Bref, il y a une forme d'éclectisme dans les choix culturels des Français qui, je trouve, est plutôt une bonne chose sur le plan du goût international, notamment des plus jeunes, qui fait peut-être écho aussi à notre intérêt pour les cinémas qui viennent d'ailleurs, et notamment le cinéma japonais peut-être.
Merci beaucoup Julien Bouvard d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes enseignant-chercheur en études japonaises à l'université Lyon 3. Le tome 100 de One Piece est sorti hier chez Glénat. Merci.
Merci beaucoup.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Vous êtes sur Europe 1, il est 6h10. L'essentiel de l'actualité de ce jeudi, c'est le journal permanent, Alban Leprince.
Et la surprise dans les rangs de la gauche. Anne Hidalgo, qui ne décolle pas dans les sondages, veut une primaire pour la présidentielle. Une candidature d'union n'a de sens que si tous les candidats partagent les mêmes propositions, a déclaré François Hollande, avant même la prise de parole de la candidate du PS. Plan blanc activé dans de nombreuses régions, 6 au total. Objectif, anticiper une augmentation des hospitalisations, alors que plus de 61 000 cas de Covid ont été enregistrés ces dernières 24 heures, du jamais vu depuis le 2 novembre 2020. Et puis conférence de presse à 16h pour Emmanuel Macron, la deuxième de son quinquennat devant une centaine de journalistes. Le chef de l'État présentera ses priorités pour la présidence française de l'Union européenne qui débute le 1er janvier.
On en vient à la prescription culture et le jeudi, c'est gastronomie.
Avec Olivier Pouls, bonjour Olivier.
Bonjour Julien, bonjour Ambine.
Bonjour.
Comme tous les jeudis, vous nous faites découvrir ou redécouvrir notre culture gastronomique et une spécialité ce matin, spécialité que nos auditeurs de Franche-Comté connaissent bien, la cancoyotte.
Bah oui, alors regardez cette texture coulante, cet aspect crémeux, légèrement élastique et surtout ses saveurs uniques, un goût de beurre, de lait, légèrement fruité hein, pour celle qui n'est pas aromatisée. Alors, entre la Franche-Comté et la cancoyotte, vous l'avez dit, c'est une histoire millénaire puisqu'on date ses origines à 2000 ans. La région s'appelait encore la Sécanie à l'époque. Elle est née d'utiliser en fait le lait crémé que l'on obtient après avoir prélevé la crème pour faire du beurre ou de la crème d'ailleurs, et qui a donc servi à produire le méton. Alors je vais y revenir parce que c'est très important, mais qu'elle soit nature, à l'ail ou ma préférée au vin jaune, la cancoyotte n'est en réalité pas un fromage au sens propre du terme, mais une préparation fromagère. La cancoyotte, on peut l'acheter ou la faire soi-même. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile.
Alors justement, comment est-ce qu'on peut faire ?
Eh bien, il faut donc se procurer ce fameux méton que l'on trouve facilement dans les fromageries de Franche-Comté ou qu'on peut commander et se faire livrer. Alors, qu'est-ce que le méton ? Eh bien, il s'agit de lait de vache qui a été écrémé, caillé et séché. Il se présente sous forme de petits grains, de petits granulés, tout secs. Et pour faire de la cancoyotte, il faut donc le réhydrater avec de l'eau ou avec du lait. On y ajoute ensuite un peu de beurre et on l'aromatise si on le veut. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Mais le plus simple, c'est évidemment encore d'aller acheter la cancoyotte toute prête chez votre fromager. Laissez-moi vous préciser que la cancoyotte est un fromage très peu calorique.
Ah
c'est
oui.
Même l'un des moins gras du marché, puisque le méton a été écrémé, qu'il est remonté avec du lait ou avec de l'eau, et il y a juste un petit peu de beurre. Mais au final, le total des matières grasses est extrêmement faible dans la cancoyotte. Fromage de régime.
Une information qui ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Qu'est-ce qu'on fait avec de la cancoyotte, Olivier ?
Bah écoutez, on peut la manger comme ça, au petit déjeuner, à l'étaler, hein, comme on dit, sur un morceau de pain grillé, c'est délicieux. Mais on peut aussi la faire chauffer, elle va alors devenir plus coulante, et on fera comme par exemple le chef Mathias Marc qui la propose sur des pommes de terre, des petites rates cuites à la vapeur, en robé de cancoyotte, c'est pratiquement un plat à part entière. On peut juste rajouter éventuellement une petite saucisse de morteau, c'est délicieux. On peut l'utiliser pour gratiner, par exemple, du chou-fleur, ou on peut en faire des sauces, une volaille à la cancoyotte. Vous savez, il y a mille façons de la préparer. Ce qui est simple, c'est qu'on peut la manger ou froide ou chaude.
Alors, elle est régime ?
Oui.
On la trouve où ?
Je vous confirme.
On la trouve où, cette cancoyotte, ça m'intéresse.
Mais c'est un produit qui est plutôt tendance et on la trouve maintenant chez de nombreux fromagers qui en vendent. Et puis il faut savoir qu'il y a aujourd'hui une douzaine de fromageries qui en produisent grâce au lait de 400 producteurs. Il n'y a que deux producteurs fermiers, c'est-à-dire qui travaillent exclusivement avec le lait de leur ferme, les Maisons de la Motte et Chancereau. Mais franchement, aujourd'hui, je pense que votre fromager devrait en avoir avec tout cet éventail d'aromatisation dont je vous ai parlé. J'ai même vu de la cancoyotte au piment d'Espelette ou au poivre. On joue à faire ce qu'on veut.
Ce n'est pas gras, c'est délicieux, que demande le peuple.
Oui,
merci beaucoup, Olivier Pouls.
Bonne journée.
Merci de commencer votre jeudi avec nous sur Europe 1. Celui qui sera en concert les 29 et 30 juillet 2022 au Stade de France, Ed Sheeran avec Shivers. Bon réveil.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
On va apprendre des trucs. Hein.
Ah oui, on parle bien anglais, dis donc. Surtout oui. 5h57 sur Europe 1 en français. Nous sommes le jeudi 9 décembre. Dans un instant, la météo, le journal et un rêve coûteux.
Qui n'a jamais rêvé d'aller dans l'espace, d'admirer la courbure de notre planète, de s'approcher des étoiles? On en a tous envie, mais...
Ouais, tout le monde n'a pas la capacité de devenir astronaute comme Thomas Pesquet.
Ni le compte en banque de ce milliardaire japonais qui est arrivé il y a quelques heures à bord de la Station Spatiale Internationale. Il aurait déboursé 100 millions de dollars, facture qui ne prend pas en compte toutefois le coût pour la planète. Et oui, parce que les fusées, ça pollue et ça épaque un peu. Alors pour l'heure, ça reste négligeable, mais avec le développement du tourisme spatial à vitesse grand V, ça risque de devenir un vrai problème à l'heure de la lutte contre le changement climatique. C'est ce que dénonce notre invité, le physicien François Graner. Il sera avec nous dans une petite dizaine de minutes. On écoutera ensuite votre partition, Ombline.
Il disait, j'écris une valse, un corinho, une musique traditionnelle brésilienne et une petite symphonie. C'est une bossa nova.
Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
La bossa nova de Tom Jobim dans 20 minutes.
Alors la bossa nova, on va la laisser au Brésil parce que la météo d'Anissa Dadi, c'est de la pluie, de la pluie et de la pluie.
Parce que ça pourrait nous faire du bien. En plus, c'est l'été qui commence au Brésil,
oui.
là.
Ça pourrait nous faire du bien un peu de bossa nova pour oublier un peu ce temps maussade que je vais vous annoncer. Bon, quand même, aujourd'hui, dans l'ensemble, sur les trois quarts de la France, on a une accalmie de manière générale. Mais c'est vrai que dans le sud-ouest, c'est pas terrible. On a encore des pluies fortes. C'est un épisode qui devrait durer jusqu'à samedi avec des cumuls très importants attendus. Donc les Pyrénées sont concernées, mais aujourd'hui, les pluies vont déborder jusque sur la Gironde et les Landes. On a une nouvelle perturbation qui arrive par la façade atlantique. Donc ça veut dire que ce matin, entre la Bretagne et les Pyrénées, on a le ciel qui va se couvrir. Et alors cet après-midi, sur toute la façade atlantique, on a de la pluie, des pluies assez importantes pour toutes ces régions. Ailleurs, à l'avant de la perturbation, c'est plus calme. Hein. On a un temps très ensoleillé au bord de la Méditerranée. Sur les Alpes, on a encore de la neige à partir de 300 mètres d'altitude. En Corse, c'est agité avec des orages qui éclatent ce matin. Mais partout ailleurs, on a une alternance de nuages, d'éclaircies. C'est assez agréable. Moins 4 à Charleville, ça baisse. Moins 2 à Niort, moins 1 du côté de Vannes ce matin. 3 à Paris et 8 à Cherbourg.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, vous faites bien. Nous sommes le jeudi 9 décembre. Très bon réveil à tous, il est 6h. La cinquième vague était celle des enfants. Plus de 61 000 nouveaux cas de Covid, en particulier chez les 6-10 ans. Dans les écoles, les campagnes de dépistage s'intensifient. Reportage dès le début de ce journal. Au procès des attentats du 13 novembre, l'agaçant manège des enquêteurs belges. Les policiers se sont succédés devant la cour d'assises spéciale et leur attitude désinvolte a agacé les victimes et leurs avocats. Le récit à venir de Gladys Laffitte. Et puis l'agence spatiale européenne recrute 22 000 candidats, mais dans un an, il n'en restera qu'un. Parmi les favoris, un Français, Clément Hubert. Présentation avec Lord d'Autriche à la fin de ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Courir à la pharmacie ou jusqu'à un laboratoire pour un énième dépistage. Votre routine, peut-être si vous êtes parent, obligé de faire tester son enfant dès le premier cas positif dans la classe. Le taux d'incidence dépasse les 900 cas pour 100 000 enfants entre 6 et 10 ans. Il faut dire que ces petits sont trois fois plus dépistés que le reste de la population. Des équipes mobiles de laboratoires d'analyse se déplacent même dans les écoles pour des tests salivaires. Notre reporter Marion Gauthier a suivi l'une de ces interventions dans un établissement parisien.
Toutes les écoles veulent se faire dépister, ce qui n'était pas le cas au mois de septembre.
Depuis, la mécanique est bien huilée. L'équipe de Xavier Mouka déballe 200 petits tubes de plastique, visse des entonnoirs, colle des étiquettes au nom des enfants.
Il n'y a pas une école où on ne rend pas des positifs. On a vraiment atteint un pic, là. Jamais eu ça.
Vous savez pourquoi vous êtes là ?
Ok,
donc Isaac, Charlène.
Les élèves appelés se concentrent, lèvres pincées, sourcils froncés.
Fais comme si t'étais en train de mâcher quelque chose.
Gabriel, un CM2, tente de saliver.
Moi, ça me rassure de faire un test sans que ça fasse mal. Parce que je préfère protéger tout le monde.
Hop, le dernier. Et c'est fini.
Plus qu'à attendre les résultats.
Et croiser les doigts. Elvina Dolé est la directrice de l'école.
On a quand même à plus de 80% d'élèves testés. Les familles n'ont pas besoin d'aller dans les laboratoires. Du coup, on n'a pas non plus à les solliciter. C'est plus simple et plus rapide.
Des coursiers viennent chercher les tubes de salive pour les faire analyser au laboratoire. L'équipe, elle, repart vers un autre établissement. 2000 à 2500 élèves sont dépistés chaque jour.
Le reportage de Marion Gauthier.
Une primaire de la gauche, c'est la proposition sur
surprise d'Anne Hidalgo, la candidate soutenue par le PS à l'élection présidentielle, créditée de 3 à 6 % dans les sondages, l'a annoncé aux 20h de TF1 hier soir.
Une initiative saluée d'ailleurs par l'un de ses concurrents, Arnaud Montebourg. Plus tôt dans la journée, l'homme de la remontada avait appelé à se réunir derrière un candidat unique pour la gauche. Arnaud Montebourg prêt à se retirer de la course à une condition. Explication hier soir chez nos confrères de France Info.
Moi, ce qui m'importe, je vais vous dire, ce qui m'importe, c'est qu'on ait un projet commun. Et je propose une réunion de travail entre l'ensemble des équipes pour que nous mettions chacun 5 projets que nous ferions. Et puis après, il y aura 3, 4, 5, peut-être pas plus, de points de divergence à trancher. Et là, nous pourrions avoir un projet de gouvernement réaliste, réalisable, concrétisable et qui donne finalement à la gauche une perspective politique.
Et ce projet de candidature commune, d'autres candidats de la gauche en revanche l'ont torpillé. Éric Coquerel de la France Insoumise évoque, je cite, une machine à perdre. Le Parti communiste, lui, n'y participera pas. Quant à François Hollande, cette candidature n'a de sens selon lui que si les candidats ont un programme en commun. Or, ce n'est pas le cas, a répondu hier l'ancien président de la République.
Et j'ajoute que le candidat des Verts, Yannick Jadot, sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h13 sur Europe 1. Pour l'heure, il est 6h passé de 3 minutes sur votre radio préférée. On en vient au procès des attentats du 13 novembre. Avec la fin d'une séquence cruciale, le témoignage des enquêteurs belges sur le parcours des accusés.
9 jours d'audience à distance, en visioconférence et sans révéler leur identité. Des méthodes qui avaient exaspéré les avocats de la défense. La moitié du box des accusés même restait vide en guise de protestation. Et ils ne sont pas les seuls. Gladys Laffitte, les victimes aussi ont été agacées par l'attitude des enquêteurs belges.
Oui, les enquêteurs belges voulaient éviter le Belgique bashing. Eh bien, c'est assez raté puisque leurs prestations à l'audience ont été décevantes. Sur la forme d'abord, certains donnaient l'impression de découvrir l'exposé qu'ils lisaient sur un ton souvent désinvolte et soporifique. Mais surtout sur le fond, beaucoup de « je ne sais pas, il faut voir avec mon collègue », peu de réponses concrètes aux nombreuses questions des avocats de tous bords. Par exemple, sur l'exploitation tardive du téléphone de Brahim Abdeslam, un an après le 13 novembre, alors que des messages avec Abdelhamid Abaoud auraient pu être découverts avant les attentats, ou encore sur la réalité du suivi par les services belges de Salah Abdeslam, identifié et interrogé par les enquêteurs en février 2015. Maître Gérard Chemla est avocat de partie civile.
À mon avis, c'est difficile de se confronter aux erreurs. Je pense qu'il y a un souci de clarté. On n'a pas encore mis à jour les choses qui n'ont pas été traitées comme elles auraient dû l'être. En l'état, je n'ai pas l'impression que tout soit mis sur la table.
L'avocat a demandé à ce que le patron de l'organe de contrôle de la police belge soit entendu par la cour. D'ici là, les parties pourront retenter leur chance auprès des enquêteurs belges qui témoigneront à nouveau en février prochain.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1, la cellule des attentats de Paris qui avait aussi organisé ceux de Bruxelles en 2016. Le procès s'ouvrira le 10 octobre 2022 dans la capitale belge.
Il s'appelle Clément Hubert et il pourrait devenir le prochain astronaute français de l'Agence spatiale européenne.
Ce grenoblois de 29 ans est convoqué cette semaine comme 1500 autres candidats. C'est la première campagne de recrutement depuis 2009 et l'arrivée d'un certain Thomas Pesquet. Alors avant de le rejoindre, Clément Hubert devra franchir plusieurs étapes pendant plus d'un an. Présentation avec l'Ordre d'Autriche.
Clément Hubert s'entraîne depuis un an. Son point fort, c'est qu'il est polyvalent. Ancien élève de Saint-Cyr, aujourd'hui ingénieur en robotique et réserviste dans les troupes de chasseurs montagnards, il fait aussi de l'escalade, de la plongée et il apprend le russe, langue obligatoire pour tous les astronautes européens. Hier en Allemagne, Clément Hubert a passé une nouvelle épreuve de mise en situation.
Le but de ces tests, c'était de tester nos facultés cognitives, la mémoire, la capacité d'adaptation, de mener plusieurs tâches de front. Ce que j'adore dans le métier d'astronaute, c'est de repousser les limites de la connaissance et de l'exploration humaine. Donc, retourner sur la Lune pour vraiment s'y installer et aller sur Mars, ce sont des défis qui m'intéressent particulièrement.
Et si vous réussissez, vous travaillerez dans le même bureau que Thomas Pesquet.
Et ça serait une chance. Je la touche pas encore du doigt, malheureusement, mais j'aimerais bien, oui.
Le chemin est encore long jusqu'à l'automne prochain, date des résultats. Bientôt, Clément Hubert et les autres candidats retenus passeront un oral devant un jury composé en partie d'astronautes.
Voilà le récit de l'Ordre d'Autriche. Alors, il y avait quand même 22 000 candidats au départ pour une place, donc il faut quand même être motivé.
Assez brillant, hein,
voilà,
je pense.
Assez brillant, voilà. Ça va. Comme vous, finalement.
Comme ce journal, signé Roman Hockey. Merci, Roman.
Tant de fleurs envoyées. 6h06 sur Europe 1.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et Lille qui rejoint le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions.
Oui, les Nordistes sont allés s'imposer à Wolfsburg hier soir, victoire 3-1 grâce à des buts de Yilmaz, David et Gomez. Le LOSC termine premier de son groupe, résultat historique et fierté du coach Jocelyn Gourvennec. Écoutez.
J'avais dit aux joueurs, on va tout jouer à 300%. On va faire notre chemin, ça va être dur parce que c'est la Ligue des Champions et on se qualifiera. Ce soir, d'avoir la première place, c'est la première fois dans l'histoire du LOSC. Les joueurs auront de toute façon marqué l'histoire du LOSC.
Autre qualifié hier, Benfica qui a battu le Dynamo Kiev, tandis que le Barça coulait contre le Bayern. Défaite 3-0. Les Catalans ne verront pas les huitièmes, une première depuis 17 ans. Des huitièmes dont on connaîtra les affiches lundi. Tirage au sort compliqué en perspective pour le Paris Saint-Germain.
Après la Ligue des Champions, place à l'Europa League aujourd'hui.
Oui, Lyon, Marseille et Monaco. Et Monaco joue aujourd'hui. Trois matchs sans enjeu puisque Marseille est déjà éliminé, tandis que Lyon et Monaco sont qualifiés. On jettera quand même un œil à Lyon, Glasgow Rangers. Les Lyonnais en crise de résultats ces dernières semaines doivent se relancer. Alors que leur directeur sportif Juninho va partir cet hiver.
Lyon qui a été sanctionné hier.
Oui, après les incidents ayant émaillé la réception de Marseille le 21 novembre dernier et ce match interrompu dès la 4e minute après un jet de bouteille, l'OL perd un point au classement mais le match sera rejoué, de quoi provoquer la colère des Marseillais à l'image de Jacques Cardoz, directeur de la communication.
C'est une décision qui est profondément décevante, voire humiliante pour les joueurs, si je comprends bien. L'idée aujourd'hui de la commission de discipline, c'est de dire qu'à chaque fois qu'un joueur sera frappé, eh bien, on retirera un point à l'équipe recevante et qu'on permettra quand même à cette équipe de rejouer le match. Que se passerait-il si demain il y avait 20 bouteilles qui devaient tomber sur la tête des Marseillais? On rejouerait 20 matchs?
Jacques Cardoz en direct hier dans Europe 1 Sport.
Un mot de handball pour finir, Martin.
Oui, avec les Bleus qui entament le tour principal du Mondial aujourd'hui, les joueuses d'Olivier Crumbles affrontent la Pologne ce soir à 20h30.
C'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, on va s'intéresser au tourisme spatial et à son impact écologique. Loin, très très loin d'être compatible avec la lutte contre le changement climatique. On en parle dans deux minutes avec le physicien François Graner. A tout de suite.
5h, 6h30. Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h11 sur Europe 1. Votre invité, Julien, est physicien, directeur de recherche au CNRS et enseignant à l'Université de Paris.
Bonjour François Graner.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. La Station Spatiale Internationale a accueilli ces dernières heures un milliardaire japonais ainsi que son assistant personnel. Tous deux ont rejoint l'ISS à bord d'une fusée Soyouz, ce qui marque le retour des Russes dans le tourisme spatial, un secteur en plein essor et qui est, dites-vous, à l'heure de la lutte contre le changement climatique, une aberration écologique. Pourquoi cela ?
Ben, pour vous donner une idée de l'énergie que ça fait pour le lancement, c'est comme ce qui a ravagé l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, donc c'est énorme. Et donc ça veut dire que Yusaku Maezawa, il va, pour quelques jours, il va consommer par personne, hein, comme une soixantaine de Français, et qui déjà consomment trop pour l'accord de Paris.
Une soixantaine de Français.
Matériaux aussi.
Oui. Il va générer autant de CO2 que ce que consomment chaque année une soixantaine de Français.
Exactement, mais lui, c'est en quelques jours.
D'accord. Alors là, on parle de ce qui se fait de mieux actuellement dans le tourisme spatial. Je crois que le billet pour aller dans l'ISS est estimé à 100 millions de dollars. Mais depuis quelques mois, il existe des alternatives, on va dire, moins haut de gamme, moins onéreuses. Les vols suborbitaux que proposent les Américains de Blue Origin et de Virgin Galactic. Concrètement, ce sont quelques minutes en apesanteur à 100 km d'altitude maximum. Ça aussi, ça pollue énormément.
Ben oui, et en quelques minutes, ça fait le budget en énergie et en carbone d'un Français pendant un an. Donc c'est là aussi, c'est gigantesque en quelques minutes.
Qu'est-ce qui pollue exactement ? C'est les gaz générés par la propulsion des fusées ?
Alors il y a à la fois le fait qu'on dépense de l'énergie, qu'on a besoin d'énergie, qu'on rejette du carbone, et aussi des suies. C'est-à-dire qu'on a calculé que s'il y avait 1000 vols suborbitaux comme ça, ce qui est l'ordre de grandeur que les gens veulent développer, ça laisserait tellement de suie dans l'atmosphère que ça contribuerait à modifier le climat pour la planète entière, hein, pas juste à l'endroit où il y a des tirs.
Oui, parce que le problème des fusées, c'est qu'elles rejettent du CO2 dans les hautes atmosphères, et ça, on ne sait pas, et des suies également, vous venez de le dire, et on ne sait pas quel impact cela a pendant des années durant sur le climat, c'est ça ?
Oui, parce que par rapport, les suies de l'aviation, elles sont nettoyées par les pluies parce qu'elles sont beaucoup plus basses. Celle-là, c'est en haute atmosphère, donc ça a beaucoup plus d'effet sur le climat.
Alors après, on peut vous opposer que ces voyages spatiaux font rêver et que certains aident à financer les programmes d'exploration spatiale, les missions scientifiques.
Alors, la mission scientifique, dans ce cas-là, c'est vraiment un alibi. Il y a beaucoup de moyens de faire de la science et de la financer, et à des échelles beaucoup plus raisonnables. Le but est clairement commercial. Le moyen de rêver, oui, c'est clair que ça fait rêver, mais il y a beaucoup d'autres moyens de rêver aussi. On peut rêver en étant sur Terre, si c'est juste pour voir que la Terre est ronde. Vous avez déjà des photos qui vous montrent que la Terre est ronde depuis longtemps.
Oui, à la différence près que SpaceX, qui s'est lancé dans le tourisme spatial ces dernières semaines, ces derniers mois, finance aussi des opérations scientifiques, ou en tout cas de conquête spatiale, veut aller sur la Lune et sur Mars notamment.
Ah oui, mais la conquête spatiale et les objectifs scientifiques sont deux choses très différentes. Les vraies missions scientifiques, il y en a effectivement dans l'ISS, mais le tourisme spatial n'est pas une justification pour le financement de ces opérations scientifiques.
Il n'existe aucune réglementation aujourd'hui sur les émissions des fusées, comme il y en a pour nos voitures, par exemple ?
À ma connaissance, non.
Donc les acteurs du tourisme spatial font ce qu'ils veulent, c'est le Far West, c'est ce que vous nous dites.
Oui, très curieusement, dans le spatial, une des régulations qu'il y a, des rares régulations, c'est par exemple, on l'a vu pour Starlink, ceux qui donnent l'autorisation, c'est l'autorité de communication américaine. Donc c'est pas international, c'est l'autorité d'un pays, et c'est uniquement la régulation des domaines de fréquence pour les communications. Donc c'est tout ce qui est pollution, est absolument pas régulé pour l'instant.
Idem pour les débris, pas de réglementation également ?
Et là, il y a des. Si vous avez vu le film Gravity, effectivement, il y a des scénarios catastrophes sur le fait de la multiplication des débris. Le fait que plus vous avez de débris, plus vous avez de collisions. Et plus vous avez de collisions, plus vous créez de nouveaux débris. Donc, ça, au-delà d'un certain seuil, quand il commence à y en avoir beaucoup, les débris peuvent se multiplier. Donc,
c'est ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, si je ne me trompe pas. C'est ce cercle vicieux qui est théoriquement sans fin. Est-ce qu'on a atteint un point de non-retour ? Est-ce qu'il y a tellement de débris au-dessus de nos têtes qu'on ne peut pas, d'une certaine manière, revenir en arrière ?
Je ne sais pas s'il est déjà, si avec les débris qui sont déjà là, on a le point de non-retour, mais avec tous les projets, et en particulier des projets de satellites,
Et de constellations, Starlink, etc.
Voilà, etc. Là, avec tous les projets qui sont dans les tuyaux, oui, on a de très fortes chances d'atteindre un état où on ne contrôle plus la prolifération de débris.
Ce qui sera extrêmement problématique pour les missions à futur d'exploration spatiale, vu que ces débris peuvent être extrêmement dangereux. Est-ce que vous sentez sur tous ces sujets, sur toutes ces pollutions générées par l'industrie spatiale, qu'il y a un début de réflexion, que les critiques commencent peut-être à pousser les acteurs du spatial à se remettre en question ?
Pas vraiment, parce qu'on a plutôt l'impression que les missions actuelles plus la communication autour donnent l'idée à la fois que l'espace est une marchandise, que ça peut être un dépotoir où on peut mettre ce qu'on veut, et que surtout on a la toute-puissance, c'est-à-dire qu'on peut faire absolument que tout ce qui est faisable, ben on va le faire. Voilà. Et donc ça, c'est cette illusion-là qui est à l'origine de beaucoup des dérèglements qu'on a actuellement.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup François Graner d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes physicien, directeur de recherche au CNRS et enseignant à l'Université de Paris. Je retiens cette information. Le vol qu'a vient de faire le milliardaire japonais qui est actuellement à bord de la Station Spatiale Internationale a généré autant de CO2 annuel que ceux de 63 Français. Merci à vous et à très bientôt sur Europe 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
6h20 sur Europe 1, les principaux titres de ce jeudi avec Alban Le Prince.
7 régions ont désormais activé le plan blanc dans leurs hôpitaux face à une explosion du nombre de cas, 61 000 hier. Objectif, anticiper l'augmentation des hospitalisations liées à la 5e vague. La deuxième conférence de presse d'Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat cet après-midi à 16h. Le chef de l'État présentera les priorités pour la présidence française de l'Union européenne qui débute le 1er janvier. Une primaire de la gauche. Proposition surprise d'Anne Hidalgo, la candidate PS à la présidentielle. À 4 mois du scrutin, elle ne décolle pas dans les sondages et plafonne entre 3 et 5% d'intention de vote.
On termine avec votre partition, Omblin, consacrée à celui dont le nom reste de manière indéfectible lié à la bossa nova, le pianiste, guitariste et compositeur Antonio Carlos Jobim.
Il est l'un des inventeurs de la bossa, Julien. La bossa nova, une samba qui prend son temps au déhanchement paresseux avec des influences jazz. Celui qu'on appelle également Tom Jobim apporte un degré de raffinement et d'élégance à la musique populaire brésilienne.
Si você disser que eu desafino amor. Thank you. Saiba que isto em mim provoca imensa dor.
Nous sommes à la fin des années 50 dans un Brésil présidé par le visionnaire et optimiste Kubitschek.
Il s'est donné la mission de faire entrer le pays dans l'ère moderne. Le Brésil se réinvente, les travaux de la future capitale brasilia sont lancés, la Seleção de Pelé gagne sa première coupe du monde de football à la radio. La guitare de João Gilberto illustre cette douceur de vivre.
Et au cœur de ces années dorées, Tom Jobim fait la rencontre de sa vie.
Avec le poète Vinicius de Moraes qui cherche un compositeur, ils vont écrire ensemble une collection d'immenses standards.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser.
Dans les beaux quartiers de Rio de Janeiro, Tom Jobim, Vinicius de Moraes et João Gilberto incarnent un nouveau mouvement musical, cette vague nouvelle qui inspirera plusieurs générations d'artistes.
Et très vite, cette vague nouvelle, cette bossa nova déferle sur les côtes américaines.
Elle est même présentée très officiellement lors d'une grande soirée organisée au Carnegie Hall de New York en novembre 1962. Voilà une formidable vitrine pour montrer que le jazz américain et cette musique brésilienne douce et épurée peuvent s'entrelacer. La démonstration la plus éloquente reste sans doute cet album que Tom Jobim, désormais installé en Californie, enregistre 5 ans plus tard avec Frank Sinatra.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see.
C'est encore aux États-Unis que Tom Jobim enregistre l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre.
Et à nouveau, en très bonne compagnie, une autre voix mythique du Brésil fait le voyage jusqu'à Los Angeles. La chanteuse Elis Regina retrouve Tom Jobim au studio MGM. Il pioche dans le répertoire du maître, prépare les sessions avec les musiciens, répète. Les dîners ne finissent jamais et il bavarde des nuits entières. Chaque chanson ne nécessite qu'une seule prise et laisse entrevoir cette complicité magique qu'Elis et Tom ont su créer en quelques jours.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga, candê,
é o mate da pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pino,
pingando,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhante.
Aguas de Março, une chanson que Tom Jobim a écrite d'un trait, inspirée par une journée de très forte pluie au Brésil, qu'il chante en compagnie d'Elis Regina sur leur album de 1974, Elis et Tom, chanson devenue Les Eaux de Mars, grâce à Georges Moustet, qui hier ont célébré les 27 ans de la disparition d'Antonio. Carlos Jobim.
Merci beaucoup, Omblyne. Votre matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin.
Europe 1, il est 6h27, on vous souhaite de passer une excellente matinée.
Oui, et on vous retrouve dès demain 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblyne.
Bonjour.